Escale 16-17 avec Fulgence Blanc au micro. Ouais, en ce beau jeudi ensoleillé et chaud en même temps, deux journées successives comme ça qui nous donnent de la chaleur du soleil. On n'a pas à se plaindre. Hein. Moi, personnellement, je la ferme là tout de suite et je la ferme. J'ai plus rien, j'en profite et puis c'est tout quoi. Alors, on va commencer cette émission avec Myriam Larache qui va nous parler de sport. Tragédie en Indonésie lors d'un match de soccer. Et puis, il y a le phénomène de Manchester City en Angleterre. Championnat du monde de volleyball féminin et au tennis avec l'Omnium de Tokyo et Chapovalov. Et en deuxième partie d'émission à 16h30, je reçois le directeur général et propriétaire du projet Éol à Capcha en Gaspésie. Ouais, j'étais du passage là-bas cet été. Ce que j'ai découvert là-bas, bon ben je me suis dit, on a eu à échanger, il va venir nous parler de ça à 16h30, il va nous parler de ça, Benjamin le Duc. Et tout de suite, sport avec Myriam Larache. Bonjour Myriam.
Bon après-midi Fulgence, et merci. Bon après-midi à tous nos auditeurs. En ce jeudi ensoleillé, comme tu l'as bien dit, et chaud surtout.
Ah oui.
Pour un mois d'octobre.
C'est ça.
Alors, on se lance tout de suite pour cette tragédie, oui, triste tragédie, Fulgence, qui a fait parler d'elle dans toute la planète. L'Indonésie s'est retrouvée endeuillée par l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade.
J'ai vu les images, j'ai dit waouh, ça c'est incroyable.
Au moins 125 personnes sont mortes pour l'instant dans un mouvement de foule quand des milliers de supporters, après la défaite de leur équipe, ont envahi le terrain de soccer samedi soir dernier. Alors, ils ont alors été aspergés de gaz lacrymogène par la police, provoquant donc un mouvement de panique par ce stade rempli déjà à pleine capacité avec 72 000 spectateurs. Alors, selon les autorités, on dénombre, hélas, c'est 32 enfants parmi les 125 victimes urgentes et plus de 300 blessés, dont certains sont encore entre la vie et la mort dans les hôpitaux. Alors, le gouvernement a annoncé des premières sanctions après ce drame, l'un des pires de l'histoire du football. Le président indonésien Joko Widodo avait annoncé dès dimanche l'ouverture d'une enquête. Il a promis le versement aussi de compensation aux familles. Donc, mais Amnesty International et beaucoup d'organismes de foot en dehors donc, du pays ont appelé à une enquête sur l'utilisation peut-être abusive de ce gaz lacrymogène par la police et à faire en sorte que ceux qui ont commis des violations soient jugés devant la justice et pas seulement sanctionnés par leurs supérieurs. Alors, de nombreuses réactions dans le monde du soccer. Choqué par ce drame, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit « une tragédie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ». Les clubs Manchester United, Barcelone, PSG, toute la Serie A italienne ont exprimé leurs condoléances et certaines équipes ont même observé une minute de silence avant le match. Alors, c'est triste d'aller à un événement comme ça pour le plaisir, parce qu'on aime le soccer, de se retrouver mort, il faut le dire, crûment.
Myriam, tu sais, la question que je me suis posée d'abord, quand j'ai vu les images, je me suis dit, comment les forces de sécurité, mais les gens ne s'attendaient pas à ça du tout. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, ils ne savaient pas qu'il y avait un public aussi survolté en Indonésie.
Mais il paraît que c'est très courant, justement, chez eux, surtout entre ces deux équipes, qu'à la fin des matchs, il y a souvent des bagarres en dehors du terrain.
C'est des équipes rivales.
Exact. Alors, c'est pas surprenant qu'ils soient descendus fâchés, surtout contre cette équipe, parce qu'il paraît que c'est comme si tu disais Montréal contre Québec, ou contre Toronto, tu comprends, là ? Alors, ils étaient très fâchés, mais en arriver là, c'est quand même un peu trop. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a une enquête. Ils disent, est-ce que la police, parce que les fans qui ont survécu et qui parlent donc aux médias, ils ont dit qu'il n'y avait pas tant à utiliser autant de lacrymogènes. Les ont couru sur le terrain. Il n'y avait aucune raison de les disperser de cette manière. Alors, c'est pour ça que donc il y a une enquête qui va être en espèce.
Oui, mais pourquoi ils ont couru sur le terrain pour faire quoi?
La question méchante. Est-ce que ça explique aussi ce geste?
Non, ça n'a rien à voir. Mais il faut se demander qu'est-ce qu'ils vont chercher sur le terrain aussi, quelquefois.
Exact. Et on rappelle qu'il y a eu plusieurs événements, je vais vous le raconter dans l'histoire. On rappelle qu'en 1989, un mouvement de foule au stade Hillsborough, en Grande-Bretagne, a causé 97 morts fans de Liverpool. Bon. En 2012, à Port Saïd, en Égypte, 74 morts pour la même histoire. En 64, et c'est là c'est la pire, en 1964, 320 personnes sont mortes, Fulgence, au Pérou, au stade national de Lima, quand le Pérou jouait contre l'Argentine. Alors,
Moi je sais que le Pérou, c'est un pays de football. Voilà, l'Angleterre et autres, l'Égypte, mais l'Indonésie,
Ben voilà, tu apprends que c'est un pays de football.
Voilà.
Tristement, hélas. Tristement,
voilà. C'est triste. J'ai vu les images. Non, ça m'a tristé quand même. Voilà,
oui,
ouais,
oui,
je dis,
oui.
Waouh. Ça se passe en Indonésie. En Indonésie. Voilà, ok. Voilà.
Alors, on va parler maintenant, toujours au niveau international dans le monde du soccer.
Voilà ce phénomène de Manchester City.
C'est... Le Norvégien de Manchester City. Et comme Fulgence, moi, j'ai décidé d'en parler hier. Même la presse aujourd'hui de Montréal a fait un article que je n'ai pas encore lu. Je vais le lire plus tard.
Oui.
Sur ce fameux phénomène. Il ne fait qu'enchaîner les buts. Il a fait un derby, 3 buts le week-end dernier contre Manchester United. Je vous parle ici de qui? Ben de Erling Haaland.
Erling.
Je prononce bien.
Erling, tu le prononces très bien. Tu le prononces très, très, très bien. Les gens qui le comparent à un robot.
Exact. On l'appelle le cyborg norvégien. Que ses adversaires aussi qualifient de monstrueux tant il fait mouche à chaque match.
Oui, oui.
Alors Manchester City de Pep Guardiola a poursuivi et poursuit une balade européenne face à Copenhague hier. Ils les ont balayés 5-0 à l'Etihad Stadium. Et bien sûr, l'inévitable Erling Haaland a inscrit un doublé. Et l'équipe trottine comme ça, en tête de groupe, évidemment, avec lui dans l'équipe.
Alors, je pense
quand même qu'il y a de grands aussi dans cette équipe, hein, De Bruyne. Et
mais quand je le vois jouer, c'est un chasseur de but.
C'est,
exact. La moindre occasion, voilà. Il met la dent.
Il fait mouche.
Et ouais, il fait mouche.
Et il perd pas de temps.
Il perd pas de temps. La moindre occasion, c'est
oui.
Tu vois le filet qui remue là. C'est il perd pas le
Écoute,
temps.
À son premier match avec Manchester United, tu sais, il y a des joueurs arrivent, ça leur prend du temps de s'adapter. Son premier match à Manchester United en juillet, à la 10e minute, il a marqué son premier but. Il est arrivé, bang, voilà, c'est fini. That's it. On a brisé la glace.
Il est là. Lui, il est là pour les buts. C'est si tu le mets ailleurs, c'est fini, on va plus le voir. Il est là pour marquer les buts, voilà.
Alors, écoute, déjà après le match de Copenhague hier, contre Copenhague, pardon, je suis emmêlée. Alors, après ce match, le Norvégien rentrait déjà dans l'histoire, imagine-toi, en devenant le joueur le plus jeune à atteindre les 28 buts en Ligue des Champions. Alors, le calcul semble donc tracé. Si la tendance se maintient, ça dans la Ligue anglaise, on lui prédit Fulgence 76 buts cette saison. Alors, avec ses 3 derbies depuis son arrivée chez les Citizens, à propos de Erling Haaland, la question se pose déjà dans les débats au Royaume des Anglais. Peut-il devenir le meilleur buteur de la Première Ligue à long terme? C'est le débat qui paraît dans toutes les émissions.
Non, chacun son... C'est sa période, quoi. Il faut qu'il en profite. Et surtout, je ne lui souhaite pas une blessure. Hein.
Et
voilà, parce qu'il y a des défenseurs qui vont vouloir à tout prix le détruire.
Ça va rentrer en jeu au cours de sa saison.
Voilà, il y a des défenseurs qui vont vouloir à tout prix le détruire. Là, parce que...
Et ils vont l'attendre au tournant.
Ouais.
Alors, en passant, en début de semaine, le club a revu son salaire global à la hausse, figure-toi. Une façon pour les dirigeants de City de s'assurer qu'aucun autre grand club européen ne vienne rôder autour de leur vedette, parce que figure-toi que le PSG était intéressé, et Barcelone aussi. Parce qu'au départ, il est arrivé ce juillet, mais il était où? Chez vous, chez toi, en Allemagne, au Borussia Dortmund.
Oui.
Alors, il a fait sauter tous les records, donc avec 19 buts en 13 matchs en ce moment. Alors, pour l'anecdote, juste pour vous dire, si Erling Haaland, 22 ans, est exceptionnel depuis le début de saison avec son nouveau club de Manchester City, il dit, et lui et son père, que c'est grâce aux lasagnes de son père. Son père, Alfie Haaland, en passant, qui lui aussi, un ancien défenseur de Manchester City, son père. Hein.
Quel sens d'humour.
Oui, et il dit qu'avant chaque match à domicile, son père, pour vrai, il dit, lui prépare ce plat de lasagne, que lui, il est couché sur le canapé, qu'il le regarde les préparer, et qu'il mange les lasagnes. Et bien, résultat des courses, à chaque fois que son père a fait ça, il a fait 3 triplés d'affilée au stadium de Manchester City.
Ok.
Alors,
bon. C'est pas les gens qui nous écoutent là, ça veut pas dire que vous allez préparer des lasagnes pour vos enfants qui jouent au soccer là, pour qu'ils vont marquer des buts là.
Voilà. Peut-être non.
Non.
Peut-être que les parents devraient faire ça pour leur faire manger la lasagne.
Mais, ah, voilà,
mange, comme ça tu vas devenir comme Haaland.
Non, c'est ce qui fait que j'ai dit qu'il a un sens d'humour.
Alors, on passe au cyborg norvégien dont on va revenir sûrement tout au courant de l'année. Et on passe maintenant au championnat de volley-ball féminin. L'équipe féminine du Canada a bien démarré son parcours au championnat du monde qui se passe donc aux Pays-Bas et en Pologne du 23 septembre au 15 octobre. Elle a gagné, figure-toi, son match d'abord samedi contre la Serbie. Ensuite, les Canadiennes se sont retrouvées à jouer contre la Thaïlande mardi. elles les ont gagnées en 4 manches. Alors, elles sont dans le groupe C avec la Bulgarie, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Serbie et malheureusement les États-Unis qui sont les numéro 1 mondial.
Oui,
alors,
oui,
elles sont dans ce groupe-là, ça va être difficile. Hier, par contre, première défaite après donc 3 victoires consécutives. Elles ont perdu contre la Turquie en 3 manches. Elles ont perdu toutes les manches. Elles n'ont rien laissé.
Les Turcs ont battu nos filles.
Nos filles, hélas. Alors, donc, la capitaine d'équipe, Jen Cross, a dit « Nous avons manqué de sentiments d'urgence et de concentration à des moments clés du match. » Alors, c'est pour ça qu'on a perdu. Demain, oui.
C'est comme ça, les sports de groupe. Hein. Tu relâches un peu, même les sports individuels. Tu relâches un peu, c'est fini, là.
Tu pars sur une victoire comme ça en te disant « on est bonne. »
Ça
arrive. Alors, demain, nos filles vont affronter la Pologne et samedi, la République dominicaine. Vous pouvez suivre ça en passant sur CBC, Radio-Canada, en anglais. Ouais. Alors, et on finit avec l'Omnium de Tokyo. Aujourd'hui, au Japon, Denis Shapovalov est passé en quart de finale en disposant du japonais issu des qualifications Ryo Noguchi, avec un service exceptionnel. Hier, il a été presque parfait en éliminant Steve Johnson en 2 manches aussi. Alors, tête de série numéro 7, l'Ontarien, il va livrer bataille maintenant contre le Croate Borna Koric, 9e en quart de finale demain, c'est à surveiller. Il faut juste rappeler, pour Denis, pour lui rendre hommage quand même, que dimanche dernier, à Séoul, il participait à la finale, et c'est sa première de cette année 2022. Il a laissé échapper ce deuxième titre, hélas, parce qu'il en a quand même déjà un, en s'inclinant 6-4, 7-6 contre le japonais.
Ouais, c'était un peu triste pour lui quand même.
Oui, c'était
aller jusqu'en finale, c'est comme son ami Félix Auger, quand ils arrivent en finale.
Ils y touchent avec leurs mains, puis hop, ils l'ont pas.
Mais non, on va pas c'est un peu triste pour les scores, mais les comptes bancaires sont bien remplis. Voilà.
Oui, mais surtout, il faut les encourager.
Il faut les encourager. Je pense bien à un moment donné qu'ils vont arriver à s'imposer eux aussi.
J'espère.
Voilà. Merci beaucoup, Myriam.
Alors, bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci, on se retrouve mardi. Belle, longue fin de semaine à toi.
Merci, bonne action de grâce à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.
I wanna come home to roses and dirty little notes on post-its. And when my hair starts turning gray, he'll say I'm like a fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents, that true love starts with friendship. A kiss on the forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I want a slow dance in the living room like we're 18 at senior prom and grow. Or with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father. To Billy Joel and flip our kids off when they call us old. He'll accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shapes, he'll say, oh my God, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow down could teach our daughter what it takes to love a queen. She should know she's royalty. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I'm
And he's the man who loves my, love me like my mom, my father, my dad, love my mom. Jax, like my father. Voilà, j'aime bien la petite. Voilà, bon, ben, avant de parler de la Française Annie Ernaux qui a décroché le prix Nobel de littérature. Hier, yeah, je t'en parlais d'ailleurs, je me suis dit, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui décrochent ces prix Nobel de littérature, de chimie, de physique quantique, d'économie, voilà, de médecine. Voilà, c'est la deuxième, je suis la liste. Hier, il y avait une Américaine dans le prix Nobel de chimie. Aujourd'hui, c'est une Française qui décroche le prix Nobel de littérature de 2022. Voilà, couronnée aujourd'hui. Elle est l'auteur, pour les uns, l'autrice, pour les autres, moi je dis l'auteur des années. C'est en faisant de cette figure féministe la première Française récompensée par ce prix. Voilà, c'est Annie Ernaux qui succède ainsi au Tanzanien Abdul Razak Gurna l'an dernier. Oh oui, c'est un Tanzanien qui a décroché ce prix l'année passée, 2021. Donc la femme de lettres de 82 ans. Mais quand je l'ai vue, j'ai vu ces images ce matin à la télé, je me dis, elle paraît pas, hein, on dirait qu'elle a moins que ça, quoi. Bon, voilà, ok. Récompensée pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découpe des racines, les racines, les éloignants et puis les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Voilà, c'est ce qu'a justifié d'abord le jury du prix Nobel. C'est un très grand honneur et une responsabilité, a répondu Annie Ernaux à la télévision suédoise. Une fois n'est pas coutume avec ce prix, c'est une auteure que les pronostics des bookmakers anglais plaçaient en favori juste derrière un autre écrivain français, Michel Houellebecq, et la poète canadienne Anne Carson, que l'Académie suédoise a choisi de récompenser aussi. Voilà. En remettant son prix à Annie Ernaux, c'est une écriture d'une rare puissance. C'est d'une anthropologue, c'est d'une anthropologue elle-même d'ailleurs, que les jurés du Nobel de littérature ont entendu honorer. Voilà, la comparant même quelquefois, la comparant même à Marcel Proust. Oui. Ah, c'est les membres du jury. Hein. C'est pas moi qui le... Moi, je ne l'ai jamais lu, je ne peux pas la comparer à Proust. J'ai lu Proust, d'ailleurs, il faut relire Proust avant de le comprendre. Lire. Il y a pas mal de gens, voilà. Alors, sur les 329 propositions de candidature directes, ouais, 329, parvenues à l'Académie de Stockholm avant l'été, 5 noms avaient été sélectionnés pour les jurés en octobre. Donc, selon les règles en vigueur, d'ailleurs, l'Académie n'a pas révélé le nom des auteurs finalistes. C'est mieux comme ça. Mais le poète Adonis, pseudonyme de l'homme de lettres d'origine syrienne Ali Ahmed Saïd, ou le romancier anglais d'origine indienne Salman Rushdie, faisait partie du lot sur plusieurs sources. Par exemple, à l'automne 2021 d'ailleurs, c'est le Lion d'or à la Mostra de Venise qui avait indirectement récompensé Annie Ernaux avec l'adaptation de son 10e roman L'Événement, par Audrey Diwan. Un roman autobiographique tout entier centré autour de l'interruption volontaire de grossesse qu'elle avait subie dans les années 60 alors qu'elle était étudiante en faculté de lettres. Hein? Un prix de plus pour elle, qui avait glané une multitude de récompenses littéraires depuis la publication de son premier livre en 1974, Les Armoires Vides. Voilà, j'aimerais bien les avoir pleines, les armoires vides. Oui, un récit qui évoquait déjà cet avortement clandestin, mais à la troisième personne, pour ne pas que les gens disent qu'elle parle d'elle-même. C'est-à-dire elle, c'est de ça qu'il s'agissait. Au fond, c'est ça quoi. Son parcours, hein, il faut parler de ça, simplement. Parce que on va pas parler des autres qui étaient sur la liste, je parle d'elle aussi. Elle est née à Lillebonne, à une trentaine de kilomètres du Havre. Ouais. J'ai déjà dit son âge, hein. Je ne sais pas bien donner la date exacte, 82 ans, allez-y. Elle développe depuis près d'un demi-siècle un univers très personnel qui trouve dans sa vie intime et l'essentiel de sa matière première. Après son avortement et l'histoire de ses parents, contenant la Place Gallimard 84 et une femme chez le même éditeur en 86, elle a livré à ses lecteurs un compte-rendu clinique d'une histoire d'amour avec un diplomate russe dans les années 80. Une passion simple, en 93. Un autre roman adapté au cinéma par Daniel Arbid en 2020. Ah ouais, c'est son parcours. Hein. C'est dans l'épicerie de ses parents à Idvetot, où il s'était installé peu après sa naissance. Kanye a confie avoir pour la première fois imaginé devenir écrivaine. Voilà. Voilà, très tôt. Pour consigner, dit-elle, les récits chuchotés des clients, de ses parents, l'ennui de ses longues journées de vacances, passer toujours à la maison, à meubler ses heures, ça me fait parler de. Ça me fait penser aux choses dans les bars, dans les petits bistrots où les gens se rencontrent, les brefs de comptoir, comme on dit. Voilà, c'est, les gens arrivent, ils racontent des trucs. Il y a des gens, j'ai un gros bouquin comme ça, une amie française qui m'a donné. Il y a tellement de choses qui sortent là-dedans, dans ces genres d'histoires. Donc, c'est ce qui. Tout ça. Donc, la découverte à ses 10 ans qu'elle a eu, une grande sœur décédée du typhus 2 ans avant sa naissance, a constitué un autre des traumatismes dont elle se délestera grâce à l'écriture. Ouais. L'autre fille, édition du Nil, 2011. C'est, elle a tout un parcours. Hein. Ouais. Donc, la littérature est comme pour elle une réparation de sa vie. C'est ça. Un documentaire actuellement diffusé sur la plateforme d'Arte, co-signé avec son fils David Ernaud Briot, revient sur l'éclosion de cette vocation littéraire. Oui, envisageant la littérature comme une forme de compensation, voire ça, de réparation face au traumatisme de la vie dont la violence de son père, alcoolique, fait partie. Annie Ernaud n'a cessé de vouloir s'enfranchir de la honte qu'elle éprouvait, enfant face aux camarades bourgeois de sa classe. Ça joue beaucoup, hein. Ça blesse, ça joue, ça. Ouais, les enfants, oui, c'est vrai. Et le sentiment d'appartenir à la classe des dominés constitue de fait un autre fil rouge de sa carrière littéraire, Et puis après ses études, ses brillantes études à l'université de Rouen, qui la virent devenir professeur agrégé de lettres en 71, ne parviendront jamais à éteindre cet inextinguible complexe social. Ouais. Ouais. Fait partie à la classe des dominés. Ça l'a beaucoup marqué, hein, il faut le dire. Je quand je lis ça, tout ce qui la concerne, son parcours, tu te dis, waouh. Elle vient de très loin et elle mérite ce prix. À 82 ans. Oui. Mieux vaut ça que rien du tout, mieux vaut si tard que rien du tout, avoir sa disparition de cette planète sur laquelle je ne me reconnais plus. C'est pas quand j'ai, parce que moi, personnellement, quand je naissais, ce n'est pas la vie dans laquelle j'avais voulu vivre avec tout ce qu'on vit. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous voulez faire avec. Après le succès de Librairie de la Place, consacré par le prix Renaudot en 84, Annie confiait dans ses carnets intimes pas de joie particulière, intense. Et pourtant, je sais que j'ai voulu cela, que ce livre rachète tout. Les peines de mon père, comme si je retrouvais l'enfance. Et je me demande quel rapport avait ce que je vis, cette libération et cette douceur avec ma mère. Une apparente froideur qui tranche avec l'émotion intense qu'elle confie avec ressenti lors de l'annonce de ce Nobel. Ouais. On ne peut pas demander mieux que ça. Et je lui souhaite, je lui dis bravo. Je l'applaudis comme ça. Quand j'ai vu la nouvelle ce matin, j'ai entendu, j'ai lu, je dis waouh. Ouais. Je savais qui elle était, mais je ne l'ai jamais lu. Ça me poussait à aller chercher un de ses beaux romans ou bien celui qui lui a permis de découvrir. Voilà. Elle a tout un parcours, cette dame. Bravo, Annie Ernaud, pour ce prix Nobel de littérature 2022. Et j'espère que... Et je dis bravo aussi à l'autre dame qui faisait partie des gagnantes, des lauréates de prix Nobel de chimie. Là, c'est... Les hommes raflent tout. C'est américaine. Caroline Bertozzi, Université de Stanford, aux États-Unis. Si vous voulez. C'est parmi tous ceux qu'on nomme depuis lundi, il y a deux femmes seulement, elle est la deuxième femme. Si je me trompe, corrigez-moi, mais c'est ce que j'ai pu découvrir, si je ne me trompe pas. Oh ouais. Deux femmes, je pense pas. J'espère que demain ça va être quoi? Attendez, j'ai ma programmation devant moi ici. Demain ça va être au prix Nobel de la paix. Voilà, est-ce qu'ils vont donner à quelle femme? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ouais, parce qu'ils ont toujours donné ça aux hommes. Alors que les femmes font beaucoup plus de paix que nous. C'est parce qu'il y a très peu de femmes dans la politique. On donne ça souvent aux chefs d'État, c'est ce que je ne comprends pas. Ouais. Non, ils ne demandent pas, c'est des gens qui les inscrivent, des gens qui... Je ne pense pas que quelqu'un court à la recherche d'un prix Nobel lui-même. C'est les gens, c'est l'entourage qui inscrit les gens. Voilà. Alors je dis bravo à cette dame, ouais, pour le prix Nobel de chimie, l'une des lauréates, parce qu'elle n'est pas la seule. Ils sont trois. Mortel Mettal, c'est énorme aussi, Danemark. Et Barry Sharpless, Scripps, Richard, États-Unis. Bon, deux hommes, encore les hommes. Prix Nobel de la paix. Je serais bien étonné qu'ils donnent ça à une femme demain, quoi. Bon, je sais pas. Voilà. C'est pas moi qui vais travailler à la place de ce jury. Et puis, tout doucement. Mais quand même, je dis bravo à ces deux dames. Bon, je dis bravo. Je dis merci au jury de faire le petit pas comme ça chaque année pour essayer de faire découvrir toutes ces grandes dames qui participent à tous ces. Qui sont très influentes aussi dans ces différents milieux-là. Ouais. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, ouais, Benjamin Leduc, qui va venir nous parler de projet Éole, à Capcha, en Gaspésie, pour découvrir la plus haute éolienne à axe vertical du monde, une centrale électrique expérimentale de concept unique en pleine nature, 110 mètres de hauteur. Voilà. J'étais devenu enfant quand je me suis retrouvé là, cet été en Gaspésie, mon premier voyage en Gaspésie. Je suis allé visiter le site. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Vous l'avez bien entendu, on est toujours à Escale 16-17, la deuxième partie de l'émission. Mathieu me dit là-bas, ah bon? Je dis oui. Alors mon invité est déjà au bout du fil, voilà, Benjamin Leduc qui va nous parler du projet Éole. Il est le directeur général et propriétaire de ce beau cadre que j'ai eu la chance de visiter durant mon séjour en Gaspésie cet été, mon premier séjour en Gaspésie. C'est à Capcha, en Gaspésie, 5 chemins du Cap. Il est mieux placé pour nous parler de ça. C'est un endroit...
Oui, dans un cadre de villégiature exceptionnel à Capcha, au pied des Chic-Chocs, sur le bord de la mer.
C'est ça. Et puis avec une vue panorama 360 degrés à couper le souffle. Bonjour Benjamin Leduc.
Ça va bien?
Je vais bien, merci. Et vous?
Ah ouais, super. Premièrement, merci de me recevoir. En fait, c'est la première entrevue qu'on donne au sujet d'Éole, que je donne.
Pour parler de ce beau projet.
Ben oui.
Oh là là, on est, il fallait casser la glace quelque part. Voilà.
Ouais, bien évidemment.
Alors, vous, selon notre conversation qu'on a eue d'abord en été, lors de mon passage en Gaspésie, à Capcha, sur votre site, vous êtes Montréalais.
Oui.
Vous avez découvert ce site, ce projet qui était à l'abandon, si on peut le définir comme ça, à peu près plus ou moins. Qu'est-ce qui a fait que le Montréalais qui va en Gaspésie, qui découvre quelque chose comme ça, tu dis, là, ça, moi, c'est chez moi ça. C'est ici, moi, je vais travailler, je vais mettre toute mon énergie, former une équipe. Et puis, on va expliquer nous un peu, Benjamin.
Ben, en fait, le projet est un peu particulier, c'est ça. C'est assez marginal comme contexte. Peut-être pour mettre un peu vos auditeurs justement en contexte, je peux expliquer qu'est-ce qu'Éole, premièrement.
Oui.
Ensuite, je pourrais vous parler un peu de mon arrivée dans le projet.
C'est quoi le projet Éole?
Donc, le projet Éole, en fait, à la base, c'est une centrale électrique expérimentale. C'est un projet de recherche et développement dans l'éolien dans les années 80 par le CNRC, le Conseil national de recherche du Canada et Hydro-Québec. En fait, c'était avant tout le développement éolien qu'on connaît.
Oui.
Et puis, t'es lancé un peu dans un projet de démesure, ce qui était à l'époque la plus haute et la plus productive éolienne au monde.
Oui.
Et c'est une éolienne à axe vertical. Donc, ça ressemble pas à rien d'autre qu'on connaît. Hmm. Puis, c'est un projet scientifique de recherche et développement. Donc, c'était fait vraiment pour comprendre où est-ce que le développement éolien allait où est-ce qu'il allait aller, puis vers quoi il allait se diriger. À la base, les éoliennes à axe vertical étaient à l'étude parce que le générateur se trouve à la base et on pouvait pas concevoir comment faire avec les moyens technologiques de l'époque des éoliennes comme on les connaît.
Oui.
Et donc, le projet de recherche a eu lieu pendant quelques années.
Oui.
À la fin du projet de recherche, ils ont continué à faire fonctionner EOL. Ça a été la propriété est transférée parce que le projet de recherche était terminé.
Oui.
Et à un certain point, il y a eu un bris dans EOL qui a fait en sorte qu'elle a arrêté de fonctionner depuis 1993 et que la réparation est impertinente. Mais c'est un projet de recherche qui avait une durée déterminée et c'était fait pour être démantelé. Mais comme elle est belle et majestueuse
c'est
en son
beau,
ensemble,
c'est beau à solide, voir. C'est beau à voir.
Mais comme elle est très solide, donc elle est puis les coûts de démantèlement sont très pendue, elle est restée debout et depuis il y avait certaines visites qui avaient été organisées et donc c'est en 2019 qu'on a pris la responsabilité. Tu sais, des fois les gens disent vous êtes propriétaire d'EOL, vous êtes acheté EOL. Je les corrige en disant que c'est plus une responsabilité qu'un achat ou un investissement à la base parce que c'est une structure assez unique, c'est un élément du patrimoine industriel québécois et canadien, puis c'est un monument du développement éolien qu'on se doit, auquel on se doit de rendre hommage quand même, parce que il fallait passer par là, puis c'était quelque chose de grandiose à l'époque.
Oui. Donc, oui. Mais moi j'ajouterais même pas seulement à l'époque, en tant que comme c'est devenu un lieu un peu visité, bon, même si cette grande tour là ne fonctionne plus depuis un certain nombre d'années, mais quand même c'est quelque chose, hein.
Ouais, ben c'est une structure qui est unique au monde.
Puis ouais, c'est ça.
Tous les éléments des halls ont été faits dans des plans d'ingénierie, puis on sont sur mesure, ça ressemble à rien. Puis des fois je dis, mais pas à la blague, quand je reçois des ingénieurs ou des gens de l'industrie éolienne qui viennent à EOL, en général c'est les gens les plus impressionnés par la structure parce que y a rien qui est fait comme quelque chose d'autre. Tout était fait sur mesure dans la structure. Donc moi je dirais c'est un addon de circonstance. Dans la vie on s'attend pas nécessairement à finir avec une centrale électrique expérimentale entre les mains pour faire un centre d'interprétation sur l'énergie éolienne. Mais bon, tu sais, les addons de circonstances ont fait en sorte que comme je dis, je suis tombé propriétaire et responsable d'EOL avec mon associé Benoît Beneteau. Et donc, moi, en fait, mes plans, c'était de bouger en Haute-Gaspésie. J'étais déjà tombé en amour avec la région en 2012 quand j'étais venu ici la première fois. Puis quand j'étais venu ici la première fois, c'est une histoire assez cocasse parce que dans le temps, il y avait quelqu'un qui avait essayé d'organiser un rave, un genre de fête électro au pied des halls. Et puis alors, Benoît m'avait amené là-bas parce qu'il travaillait déjà avec l'ancien propriétaire.
Ah, Benoît, lui, il est de la région.
Non, il est pas de la région, mais il travaillait avec l'ancien propriétaire d'EOL.
Ah, moi, d'accord. OK.
Donc, tu sais, à d'autres circonstances et tout ce qui s'ensuit, c'est ça, on est allé à une fête, on est arrivé là-bas, on a vu la nature grandiose du site. Et donc, on s'est dit, ben peut-être bien qu'un jour, on va faire de quoi avec ça. Mais moi, en parallèle, je suis tombé en amour avec la région.
Oui.
Je m'étais toujours dit que j'allais vivre entre mer et montagne. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai réalisé que les meilleurs cadres de vie pour moi, c'est vraiment d'avoir des hauts sommets et la mer à proximité.
Wow.
Donc, c'est la Haute-Gaspésie que j'avais choisie comme région au Québec. Puis, comme je dis, l'acquisition d'EOL s'est faite un peu sur un... C'est un addon de circonstances, je dirais. Pas nécessairement que je m'y attendais. Et puis, c'est assez inconventionnel comme projet, comme cadre de vie. Mais, tu sais, au fil des dernières années, on a vraiment réussi à définir qu'est-ce qu'on va faire, puis à commencer vraiment à restaurer, comme je disais, ce monument du patrimoine industriel.
Oui. Comment ils ont réagi, les anciens, ceux qui géraient ce patrimoine-là, quand vous et votre collègue Foucault associé Benoît, vous les avez approchés pour dire que vous voulez vous approprier ça et puis essayer de développer autre chose dans l'enceinte même de cet établissement, comment ils ont réagi?
Ben, En fait, tu sais, pour développer autre chose, moi, c'était un peu un coup de tête. Tu sais, c'était le trip d'avoir une tour de 110 mètres. Puis, tu sais, à la base, moi, j'aime monter dans les tours. Donc, c'est un peu ça l'idée. On n'avait pas nécessairement une idée claire de comment ça allait se dérouler puis qu'est-ce que le projet allait devenir.
Oui.
L'ancienne exploitante du site qui faisait les visites guidées jusqu'en 2017,
oui.
Ben, était rendue à 86 ans. Donc, tu sais, c'était puis l'entretien du site n'avait pas été fait vraiment de façon assidue. Donc il y avait beaucoup de choses à mettre à niveau. L'ancien propriétaire, lui, ben c'était son temps pour tirer de sa révérence, j'imagine. Donc,
oui, il y a 86 ans.
Ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Mais comme je mentionnais, c'est vraiment une responsabilité d'avoir une telle structure parce que c'est gérer quelque chose d'aussi unique. Éole, c'est une tour de 350 tonnes pour vos auditeurs qui écoutent.
Oui.
C'est une tour éolienne, elle est faite en métal.
Benjamin, je me suis tellement vu petit, minimalement petit quand je me suis retrouvé là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont mis des années à construire ce monstre.
Mais c'est pas tant la construction, mais bien la conception, parce que comme je disais, c'est un ouvrage d'ingénierie, puis c'est une centrale électrique, c'est très particulier, tous les éléments. Puis, comme je mentionnais, ce qui est impressionnant surtout, c'est que c'est fait en métal. Elle pèse 350 tonnes, puis ça tient sur un morceau de métal d'à peu près un mètre de diamètre avec des gros câbles qui la tiennent en haut. Donc, c'est ça qui est assez particulier.
110 mètres de hauteur. C'est tellement beau.
Maintenant, il y a des éoliennes qui sont beaucoup plus hautes que ça. C'est toujours la plus haute éolienne à axe vertical au monde, mais c'est parce qu'ils n'ont pas construit d'éoliennes à axe vertical gigantesque.
Ah bon?
Mais dans les éoliennes, la moyenne d'éoliennes est à peu près d'une centaine de mètres qui est installée au Québec. Puis je pense qu'en Chine, c'est à peu près 250 mètres la plus haute au monde.
OK. Là, vous nous apprenez des choses. Alors, comment je reviens sur vous-même là. Quand vous avez, est-ce que avant de prendre la décision, vous en avez parlé à vos parents, à vos amis de Montréal, avant de faire le bon, comment ils ont réagi? Ils ont dit, oh Benjamin, il est fou là, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce truc?
Ben, je suis assez discret en général sur mes trucs avec mon entourage, mais j'ai toujours eu une vie assez hors du commun, donc ça étonne pas tant les gens. C'est sûr que, tu sais, comme je dis, c'est un coup de tête, puis c'est une grosse responsabilité. Donc, tu sais, c'était plus à mon niveau. Puis, tu sais, quand t'as pas visité le site, c'est dur d'expliquer.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut le voir.
Pour dire, hey, je vais prendre la responsabilité d'une éolienne à axe vertical, les gens vont comme pas trop nécessairement comprendre.
Oui.
Par rapport à déménager en Gaspésie, mais je pense que mon entourage savait que je voulais déménager. Moi, j'ai grandi sur le bord de l'autoroute des Caries.
Oui.
J'ai passé la majorité de ma vie là. Donc, ma première ambition, c'était de ne plus jamais avoir de circulation dans ma vie et d'aller à quelque part où il n'y a pas de stop et pas de feu de circulation.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est un peu ça. Les gens autour de moi, ils savaient que j'allais finir par déménager en région. C'est sûr que c'est déménager en Gaspésie, c'est un défi quand même parce que c'est assez loin. Tu peux pas faire des allers-retours à chaque mois nécessairement
c'est loin.
Pour aller visiter. Mais c'est un peu le trip aussi d'être en région très éloignée.
Oui.
Puis, comme je dis, le cadre est tellement particulier ici. Tu sais, outre le parc éolien puis Éole autour de où est-ce que moi je suis situé, mais des montagnes, les monts Chic-Choc, puis l'ensemble de la région de la Haute-Gaspésie est vraiment d'un pittoresque exceptionnel.
Oui. Alors, vous allez nous parler un peu maintenant, Benjamin, du développement futur, c'est-à-dire la nouvelle équipe, vous, Benoît et tous les autres. Et en passant, je vous dis, un de vos employés, l'étudiant ici à la Polytechnique, qui était là d'ailleurs, que j'ai trouvé, il était vraiment très, très, très sympathique. C'est lui qui nous a mis en contact.
Oui, en semaine.
Ouais. Lui aussi, il est Montréalais. Il dit non, je fais un boulot un stage d'été. Non, je suis Montréalais. J'ai dit, ah bon?
Mais lui, en fait, il est français. Il est en étude ici.
Oui, un français qui réside à Montréal, à Polytechnique, qui a fait le stage chez vous. Et puis, tout de suite, quand j'ai reçu votre appel, j'ai dit, waouh, ils sont professionnels. Hein. Alors, on va parler un peu du développement futur. Qu'est-ce que vous voulez intégrer en dehors des visites? Alors, moi, j'ai vu là-bas sur votre site, les murailles, projets artistiques, des nouveaux aménagements extérieurs, électrification autonome, programme éducatif, formation scolaire. Parlez-nous un peu de tout ça, Benjamin.
Ben en fait, je dirais que tout est un peu en train de se définir. L'histoire du projet EOL, c'est un projet en soi et puis c'est un exercice de de créativité. On a un site exceptionnel entre les mains et on essaie de mettre en place un site qui est à la fois ludique, éducatif et qui permet de transmettre de la connaissance, mais de donner une expérience aux visiteurs. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est beaucoup de l'éducation au niveau de l'histoire d'Éole, l'histoire du développement éolien, comme on est situé au cœur du premier parc éolien au Québec.
Oui.
C'est vraiment un endroit propice. C'est un peu, moi je dis, c'est une immersion éolienne. Puis les gens ont beaucoup de questions sur le développement éolien, puis quand même un désir d'apprendre. Sauf que, outre tout cela, je sais pas si vous avez eu la chance d'aller marcher dans les jardins. On a commencé à faire un verger, des jardins. On veut faire de l'éducation puis du contenu sur environnement en général.
Oui, j'ai fait un petit tour.
Esthétiquement beau, agréable à visiter, ce qui est déjà le cas parce qu'avec le monument central qui est si exceptionnel, l'intérieur du générateur qui est assez particulier, ça nous donne déjà un cadre qui est hors du commun. Mais comme dit par la suite, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'axer sur l'éducation au niveau de tout ce qui est environnemental.
Oui.
En se concentrant principalement sur l'éolien, bien évidemment, parce que c'est au cœur du sujet, mais éventuellement développer sur d'autres choses. Donc là, par exemple, pour l'année prochaine, un des super ajouts que je suis en train d'installer ce mois-ci. C'est une caméra 360 au sommet des halls où est-ce qu'on aura un casque de réalité virtuelle dans la base où on pourra visionner des couchers de soleil en haut des halls. Parce qu'à partir du haut de la tour, comme on est situé un peu sur une montagne puis la tour est à 110 mètres, c'est le point le plus haut même à 200 km de rayon autour. Donc le panorama du haut de la tour est assez exceptionnel. Donc on va pouvoir en faire profiter à tous les visiteurs. Et l'année prochaine, on recommence la montée en tour, je peux presque le dire avec certitude, qui est tout un défi, ça aussi, pour le faire en bonne et due forme. On recommence la montée en tour pour être en mesure de monter, sauf que la montée se fait dans des échelles, c'est 110 mètres d'échelle, ça va pas être pour tout le monde. Avec cette caméra-là, on va pouvoir faire profiter de la vue à tous les visiteurs.
Là, vous allez m'obliger à repartir en vacances là-bas.
Ouais, mais le site va beaucoup évoluer les prochaines années. Je dirais les deux premières années qu'on était ici, c'est beaucoup des choses. Quand on a hérité du site, il y avait une infinité de détails qui étaient à faire pour entretenir la structure ou la rendre aux normes, mettre à niveau, parce que ça, l'ancienne exploitante n'avait pas fait grand-chose.
Ouais, le monsieur de 86 ans, c'est vrai.
Il y avait tellement de choses à faire. Mais là, dans les prochaines années, c'est vraiment sur le contenu puis la visite qu'on va développer davantage, puis essayer de, comme je dis, d'élargir un peu les sujets puis de d'améliorer la diversité dans les activités que les gens peuvent faire sur le site. Parce que là, c'est sûr qu'on est vraiment axé sur l'histoire puis l'apprentissage éolien. Mmh. Les gens sont en vacances. Beaucoup de gens veulent apprendre, mais les gens veulent se divertir aussi. Des fois, c'est pas pour tout le monde la visite trop technique ou historique nécessairement.
Oui. Quand je fais le tour du parc, même de votre lieu, tout ça, moi, c'est la première fois que je me retrouvais si proche, si près de ces monstres. Moi, je les appelle des monstres. Hein. C'est tellement... Voilà, c'est... Et puis, bon, je ne sais pas, quand c'est très, très, très venteux, je ne sais pas comment le bruit peut être dérangeant ou quoi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des éoliennes au Québec?
Ben, c'est toute une question. Là, je veux dire, on pourrait en parler longtemps, mais définitivement, il y a beaucoup d'avenir dans l'éolien parce que la technologie a beaucoup évolué. C'est quand même une technologie récente. C'est comme l'exemple d'Éole, c'est la troisième éolienne à avoir été construite au Québec. C'était dans les années 80.
Oui.
Donc, le développement éolien a beaucoup évolué au niveau technique et commence à être de plus en plus pertinent comme étant une des moyens les plus économiques, en plus d'être écologiques, pour produire de l'électricité. Et il y aura du grand développement éolien au Québec, sans aucun doute.
Oui.
On en parle beaucoup dans les médias ces temps-ci.
Oui.
Puis nous, l'idée, c'est vraiment d'être un peu une courroie de transmission, parce qu'il n'y a pas d'autres sites physiques où on fait l'éducation, où on éclaircit un peu les croyances sur l'éolien. C'est nous, quand on reçoit des visiteurs, les gens arrivent, ils regardent les éoliennes, ils disent, hey, ça fait du bruit, hey, problème cardiaque. Des, on voit un peu toutes les mauvaises conceptions que les gens ont de l'éolien. Puis, nous, on n'est pas payés par l'industrie. On est des gens, personnellement, moi et je prends par exemple Patrick, qui est mon collègue, mon très cher collègue, on n'était pas des gens qui étaient vendus par rapport à l'éolien nécessairement à la base. Mais on a un peu, on a appris, puis on a appris les bons, les mauvais côtés de l'industrie, puis c'est oui. ça qu'on va essayer de passer. Mais je veux dire, la production énergétique, il n'y a rien qui se fait sans coût environnemental ou un développement industriel, il n'y a rien qui se fait sans problème. Les problèmes peuvent être réglés. C'est ça. Un peu qu'on veut essayer d'aider dans l'industrie, puis d'éduquer sur quoi on va éduquer les visiteurs et éventuellement, sûrement qu'on va être capable de sortir le contenu des halls et diffusé à plus grande échelle, soit sur le web ou en conférence.
Ouais, ouais, on tire tout doucement vers la fin de notre conversation, de l'entrevue. Benjamin, si la décision était à reprendre, si c'était à refaire, votre décision que vous aviez prise il y a trois ans?
Bon, moi, je ne regrette rien. J'habite dans un endroit complètement unique. Je suis dans un cadre de vie exceptionnel.
Génial.
J'ai absolument rien à dire. Ouais. Je suis au paradis, là. C'est beaucoup de défis, par exemple.
Je peux m'imaginer,
plein,
oui.
Plein de défis, mais une fois qu'on les relève, on est très heureux.
Oui, oui. Non, c'est un beau cadre. Moi, personnellement, ce que j'ai aimé là-bas, là, c'est le calme total. Et puis, bon, ben, se retrouver en face de ces monstres. J'ai visité les ateliers. J'ai vu comment les gens ont travaillé là. Après, je suis passé à la petite boutique de souvenirs. Là, je me suis dit, non, mais il faut en parler quand même. Il faut en parler si ces jeunes gens. Et puis quand vous m'avez dit que vous êtes de Montréal, j'ai dit, mais comment le Montréalais quitte sa grande métropole pour aller se mettre là-bas entre montagne et mer et puis gérer un site comme ça? Je vous dis bravo. Un dernier mot à nos auditeurs qui nous écoutent, pour ceux qui sont aussi impliqués dans le milieu, dans le domaine environnemental. Un dernier mot, je vous laisse la parole.
Bon, un dernier mot, je salue et je remercie toute mon équipe que j'adore. Je suis bien entouré ici. Et j'adore les gens de CAPTCHA. Ouais. J'aime la Gaspésie. Puis sinon, au niveau environnemental, ben, y a beaucoup à faire. Je pense qu'on si on se serre les coudes, puis on réfléchit, on est capable de trouver des solutions à nos problèmes, puis d'avoir des modes de vie qui sont plus cohérents et plus respectueux envers la nature.
Oui. Benoît, s'il y a des nouveautés au niveau de ce projet-là que vous aimeriez mettre à notre disposition, à la disposition du public, n'hésitez pas de me contacter et pour qu'on puisse avoir encore une autre conversation, une autre entrevue pour faire une mise à jour de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Merci à vous et à votre associé Benoît.
Oui. Oui.
Et puis
effectivement, avec grand plaisir. Puis on aura beaucoup de choses qui vont, les choses vont beaucoup évoluer dans les années à venir.
N'hésitez pas de nous contacter et puis on va en parler sur les ondes de Canada. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation et du courage et au plaisir de vous voir, de vous revoir en Gaspésie. Je vais y repasser.
Ouais, avec grand plaisir, on va vous recevoir.
Merci beaucoup Benoît et Benjamin. Pardon.
Bonne journée.
Ouais.
Au revoir. Ouais.
Voilà, bon, merci beaucoup à Benjamin Leduc, directeur général et propriétaire de ce projet Éolol en CAPTCHA en Gaspésie. Allez-y, pour ceux qui sont dans les environs et qui ne sont pas encore passés là-bas, je pense bien que tous les Gaspésiens doivent connaître, ils sont passés par là-bas. Parce que quand on est sur l'autoroute, la 132, on voit tous ces monstres-là qui à CAPTCHA, et être entre les montagnes et la mer et l'océan. Bon, c'est le golfe, hein. Bon, voilà, c'est l'océan, là-bas on appelle ça l'océan et la mer. Bon, donc n'hésitez pas. Et puis le développement que lui et toute l'équipe sont en train de faire, ça va m'obliger à repartir en Gaspésie, même si c'est trop venteux là-bas. C'est ce qui fait que c'est la bonne région pour les pitons éoliennes. Allez. On va terminer en beauté, musicalement parlant, avec Avec qui? Avec Moussa Manzini, Gus La Cape Town. Voilà, je profite de l'occasion pour dire merci à Myriam Larache et Mathieu Tessier à la régie. Ah, demain, il ne sera même pas avec moi. Je vais le revoir que le mardi. Ouais, parce que vendredi n'est jamais là avec moi alors. Donc, merci à toi, Mathieu. Voilà. Et merci à Benjamin Leduc, directeur général, propriétaire co-associé de projet éolien en Gaspésie à Capcha. Allez-y, pour ceux qui aiment la mer et puis les montagnes, c'est très bien placé. L'adresse, attendez là, je ne vais pas raconter de n'importe quoi, c'est situé au 5 Capcha, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas caché, c'est le seul endroit là-bas où on trouve ce monstre qui n'est pas du tout nul, qui n'est nulle part ailleurs, hein. C'est là seulement qu'on trouve ça, donc je me dis ok, on fait avec. Et puis c'est 5 chemins du Cap à Capcha, projet EOL. Vous allez en avoir plein les yeux. Voilà. Merci à nos fidèles auditeurs de m'être la dernière de la semaine, et prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, ça c'est clair. Vos minutes, ne les oubliez pas non plus, entretenez-les, oui, ça c'est très important. Et puis profitez de la vie, essayez de mettre assez de couleurs sous les paupières pour ne pas qu'elles vous échappent. Oui, sur ce, je vous dis ciao, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. We'll be right back.